France Inter. France Inter. Le 18-20. Fabienne Synthèse.
Il y a d'abord ce que nous savons. À coup sûr, le changement climatique est là. Ses conséquences sur nos quotidiens sont déjà parfaitement concrètes. Les crues de ces derniers jours en sont des preuves irréfutables, comme l'étaient les crues d'ailleurs du Pas-de-Calais il y a quelques semaines à peine, comme le prouvent aussi les sécheresses de plus en plus régulières. Pour vous, pour nous tous, ce sont donc des inondations dans les maisons, ce sont des zones qui sont désormais multisinistrées. Ce sont aussi des fissures qui apparaissent sur les murs dues au gonflement des sols argileux. Qu'est-ce que ça veut dire en termes d'assurance? Comment maintenir l'assurabilité de l'ensemble du territoire en prenant en compte un aléa climatique qui ne peut désormais être ignoré? Je vous laisse méditer sur un chiffre quand même. Les sinistres liés au climat en 2023, ont coûté 6,5 milliards d'euros, et c'est une très forte hausse. Un rapport remis hier au gouvernement propose des solutions parfois radicales pour que tous, et en fonction de nos zones d'habitation, nous restions assurables. Et voici ce qu'on dit notamment, et ce à quoi il faut s'attendre. Il s'agit par exemple, et on en parlera, de rehausser chaque année le régime de catastrophe naturelle, dont on parlera d'ailleurs parce qu'il est très spécifique à la France et très particulier. Il s'agit de découper la France en zones sensibles ou moins sensibles. Il s'agit d'instaurer un bonus-malus pour les assureurs afin qu'ils ne se précipitent pas dans les zones vertes et fuient les zones à risque qui coûtent plus cher. Il s'agit de nous obliger, nous aussi, à faire des travaux de prévention tous les 3 ans. On parle même de sacs de sable pour l'eau, de réhydratation des sols. Ça vous parle à vous qui vivez évidemment dans ces zones inondables? Ça vous parle à vous qui avez vu l'eau monter dans votre cuisine? Ça vous parle à vous qui avez vu des fissures apparaître sur vos murs avec la sécheresse de plus en plus parce que vous vivez sur des sols argileux? Ça nous parle à nous tous qui vivons comme le reste de la planète dans un pays vulnérable au changement climatique et qui tenons tout de même à continuer à assurer nos habitations. C'est le téléphone sonne, soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Sarah, vous êtes avec nous, vous êtes dans le Tarn et vous êtes la bienvenue. Bonsoir.
Bonsoir.
On vous écoute.
Eh ben merci beaucoup en tout cas de m'avoir pris, merci pour l'édition et bonsoir aux intervenants. Et alors moi je suis une victime collatérale parce que nous on vit dans une petite maison dans le Tarn, loin de la montagne, loin de la mer, loin des inondations, avec un peu de vent comme dans le sud-ouest, mais rien de grave. Et fin de l'année dernière, on a été contacté par notre mandataire d'assurance pour nous dire que notre assureur résiliait de manière unilatérale notre contrat parce qu'il estimait qu'on était dans une zone dite sensible. Alors, mis à part le fait que notre sol est argileux, effectivement, ben, on n'avait rien à se reprocher. On n'a jamais fait appel à l'assurance. Aucun des voisins du quartier n'a jamais fait appel à eux non plus. Donc, il n'y a aucun sinistre à déclarer. Mais par contre, on a été considéré déjà comme potentiellement future victime. Et donc, en fait, l'assurance a résilié. Alors, moi, je me pose la question, qu'est-ce que demain, il va arriver pour nous, parce qu'on a retrouvé une assurance, mais notre courtier nous a dit pas sûr qu'ils maintiendraient non plus eux leur contrat. Et donc à un moment, même si vous n'avez rien subi, vous subissez quand même cette nouvelle politique des assurances de dire voilà, on se désengage avant qu'il arrive quelque chose.
On va en parler, Sarah. Et dites-moi, vous et autour, est-ce que vous connaissez le périmètre en quelque sorte d'assurance résiliée? Alors peut-être que vous aviez pas le même, mais enfin...
Pas du tout, ouais. Alors, parce que pour le coup, comme on a un mandataire, on n'a pas du tout, on n'a pas idée de ce que...
Vous ne savez pas si vous êtes tout seul ou si tous les voisins sont concernés?
Non, je ne sais pas, mais par contre, en tout cas, c'est sûr qu'on a un sol argileux, on le sait, mais a priori, on n'a rien sur notre maison, et je me dis, j'entends que des mairies ont du mal à trouver des assureurs aujourd'hui, est-ce que ça va toucher les particuliers? Est-ce que c'est légal de la part d'une assurance de résilier alors qu'il ne s'est rien passé? Et où est-ce qu'on va, en fait, dans cette situation?
Écoutez, où est-ce qu'on va? Ça va être tout l'enjeu de ce téléphone sonne, en effet, jusqu'à 20h. Sarah, merci beaucoup pour discuter ensemble autour de la table. Il y a Gonéry Le Cozanet, bonsoir. Vous êtes chercheur au BRGM, c'est le Bureau de Recherche Géologique et Minière. Vous êtes co-auteur du 6e rapport du GIEC et vous avez participé à ce rapport sur l'assurabilité des risques climatiques qui a été remis hier à Bruno Le Maire et aussi à Christophe Béchu. Arnaud Schneeweiss, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le médiateur de l'assurance et c'est peut-être à vous que je vais poser la première question, celle de Sarah, monsieur le médiateur de l'assurance. D'abord, est-ce que c'est légal? Est-ce qu'un assureur, du jour au lendemain, peut dire à Sarah ou à d'autres, désolé, on n'assure plus votre zone?
Alors oui, c'est légal. Du jour au lendemain, non. Il y a un délai de prévenance.
Et même quand il ne se passe rien? Pas d'inondation, rien.
C'est la liberté du commerce, c'est okay. La liberté des politiques de souscription des assureurs. L'assureur, de même que vous, vous avez le droit de résilier votre contrat, mm-hmm. avec, à tout moment, quand vous le détenez depuis plus d'un an, et au bout de 2 mois, vous pouvez trouver un autre assureur. De même, l'assureur, en vous prévenant 2 mois à l'avance, peut dire, eh bien, vous ne correspondez plus à ma politique de souscription. Il faut qu'il indique un motif, mais voilà, le motif, ça peut être excès de sinistralité, ça peut être...
Mais alors voilà, est-ce que sol argileux, parce qu'on sait bien ce que ça veut dire et on va y venir, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous appellent autour des sols argileux, on va le dire très rapidement, mais un sol argileux, ça travaille avec la sécheresse et c'est ce qui provoque...
Le retrait gonflement
exactement. Argileux. Et ça provoque donc des fissures. Est-ce que sol argileux, et même, mais avant que même Sarah n'ait demandé une intervention pour cause de fissures, est-ce que ça, c'est suffisant pour un assureur, pour dire, ben non, finalement
c'est sa politique de souscription. Bon, Sarah a trouvé un autre... autre assureur. Je crois le Bureau central de tarification est un organisme vers lequel les assurés peuvent se tourner au cas où ils ont une difficulté à trouver un assureur. Le Bureau central de tarification indique qu'il y a seulement quelques dizaines de dossiers par an où les gens ont des difficultés à trouver un autre assureur, quand l'assurance est obligatoire, pour un locataire par exemple. Bon. Aujourd'hui, le risque qu'on a, et là je pense que c'est l'objet du rapport dont on va parler, le risque qu'on a, c'est que certains assureurs se désengagent à bas bruit des zones les plus à risque, et qu'effectivement, dans quelques années, dans certaines zones du territoire, on peut penser aux Antilles, on peut penser aux zones les plus exposées par le retrait du trait de côte, ou les zones inondables, que les assurés individuels aient effectivement du mal à trouver un assureur. Et c'est ça qu'il faut prévenir, bien sûr.
Et c'est ça qui est passionnant, Gonéry Le Cozanet, parce qu'il y a une... Il y a un gros morceau là-dessus dans votre rapport, et il y a cette idée de bonus-malus des assureurs. Et le bonus-malus, pour expliquer aux gens qui nous écoutent, ça veut dire que plus ils sont en zone dite verte, plus ils payent pour éviter justement que chacun ne s'enfuit vers les zones vertes et donc se dise « moi j'ai pas envie d'assurer des maisons sur le trait de côte et ailleurs parce que ça va finir par me coûter trop cher ».
Alors non, en fait la proposition que nous faisons, c'est une proposition qui est neutre pour l'assuré en termes financiers.
Ah oui, pour l'assuré, oui.
Oui, c'est vraiment pour l'assureur.
Mais pas pour l'assureur.
Effectivement,
absolument.
L'assureur en fait serait encouragé à couvrir les personnes qui sont situées dans des zones à risque pour... finalement, en bénéficiant de d'une sorte de bonus fiscal, alors que lorsqu'il serait dans des zones qui sont peu à risque et qui donc sont très rentables pour lui, il aurait un malus fiscal.
Mais ça veut dire que si vous y avez pensé, si vous le mettez tel quel, ça veut dire que ce risque, il existe.
Exactement, en fait, il existe et il est identifié depuis très longtemps. C'est-à-dire que dans le rapport de 1995 du GIEC, le deuxième rapport du GIEC, eh bien en fait, c'était déjà un risque qui était identifié.
La fuite des assureurs, en quelque sorte, en fait. Ils se sentent, pardon de vous faire comme un représentant des assureurs, Arnaud Schneiris, mais est-ce qu'ils le sentent, ça, les assureurs? C'est-à-dire, dans ces exercices qui sont faits désormais, ces rapports qui sont faits, ils sont réellement participatifs? Ou est-ce qu'ils sentent que c'est, en gros, les méchants, c'est eux, et les gentils, c'est ceux qui sont dans les maisons inondées? Parce que c'est dans ces termes-là que ça fonctionne un peu dans
les assureurs se trouvent dans une situation extrêmement difficile, donc là je vais jouer mon rôle de médiateur les uns et les autres. Mais vous avez vu que l'année dernière, il y a eu 6,5 milliards d'euros de coûts des événements climatiques, donc vraiment un changement de régime, puisqu'on était plutôt sur 3 milliards d'euros dans les années précédentes, et ces deux, trois dernières années, ça a été plus de 6 milliards d'euros de coûts. Alors, par rapport à cela, ce qu'il faut, c'est organiser... La résilience du système, la prévention des risques, l'aménagement du territoire, pour inciter les assureurs à rester partout sur le territoire. Il y a déjà des territoires comme Saint-Martin aux Antilles, où on peut avoir du mal à trouver un assureur.
Ouais, je trouve ça intéressant, parce que rester sur le territoire, mais par la contrainte, en fait, c'est aussi ça que ça dit dans le rapport Gonéry Le Cozanet, parce que c'est pas écrit tel que, mais au final, c'est comme ça que c'est à ça que ça revient, en fait, c'est rester sur le territoire par la contrainte. Parce que comme les obliger à rester sur l'ensemble du territoire, les obliger à le faire.
L'idée, c'est bien que les assureurs continuent à jouer le rôle. En fait,
dire, c'est qu'ils ne le font pas spontanément. Ils ne le feraient pas spontanément.
Spontanément, en fait, si vous avez une augmentation très forte des risques dans certaines zones, la tentation, c'est de s'évader, effectivement. Et ça, c'est bien identifié. Donc, on essaie de contrer, en fait, cette tentation.
Est-ce que
si je peux prolonger votre question, il n'y a pas d'obligation pour un assureur d'être présent sur l'ensemble du territoire. Vous pouvez très bien dire, il y a certaines zones du pays, la Côte d'Azur, ou les zones les plus exposées, les Antilles, où je n'ai pas envie d'être présent. Ça, c'est la liberté du commerce. Et donc, par rapport à ce principe de liberté du commerce, bah, il faut des mécanismes incitatifs qui font que les assureurs n'ont pas envie de se désengager de ces territoires les plus exposés aux risques naturels.
Alors nous, nous avons un régime de catastrophe naturelle que, paraît-il, le monde entier nous envie, qui existe depuis 1982. Est-ce que vous pouvez nous expliquer très rapidement, Arnaud Schneeweis, comment ça marche, ou l'un ou l'autre, en fait, comment ça marche aujourd'hui? Et on y vient parce que vous allez nous expliquer pourquoi c'est important qu'il soit non seulement augmenté, mais peut-être différencié. Comment ça marche aujourd'hui?
C'est un régime qui permet la mutualisation du risque, c'est-à-dire que les assureurs vont être protégés par une entreprise publique qui s'appelle la Caisse Centrale de Réassurance, qui est possédée à 100% par l'État, et qui va prendre en charge les risques de catastrophes naturelles. Par ce mécanisme, les assureurs se protègent et cela permet la mutualisation des risques entre tous les territoires de la République. Donc concrètement, la métropole effectivement subventionne, organise une sorte de transfert de solidarité vis-à-vis des territoires d'outre-mer où les territoires les moins exposés soutiennent les territoires les plus exposés. C'est un mécanisme de solidarité entre les différents territoires du pays. Maintenant, ce mécanisme, il est en difficulté puisque là où traditionnellement on avait des zones peu touchées par les catastrophes naturelles et d'autres très exposées, une sorte de croissance sud-ouest, sud-est, bah on a vu au cours des dernières années, et les inondations du Pas-de-Calais le montrent bien, que des zones qui étaient traditionnellement peu touchées par les catastrophes, par les événements climatiques extrêmes, l'ont été.
Ça veut dire deux choses, Gonéry Le Cozanne. Vous préconisez de faire une hausse très régulière, une hausse de 1% par an, effectivement, pour abonder, en l'occurrence, dans ce fonds-là. Et j'ai une question par-dessus. Moi, je voudrais savoir s'il ne faudrait pas, au fond, que tous les biens qui sont assurés contre notre assurance habitation habituelle soient, de toute façon, tous assurés contre les catastrophes naturelles au bout du compte, parce qu'à un moment ou à un autre, ça finira tous par nous tomber dessus. Et même quand on n'habite pas près du trait de côte, après tout, qu'est-ce qui nous met à l'abri d'un orage de grêle? J'ai appris que c'était ce qui coûtait le plus cher, par exemple, en préparant cette émission. Est-ce que l'une des solutions, c'est ça? Il faudra un moment que nous soyons tous assurés contre les catastrophes naturelles.
Alors en fait, en réalité, beaucoup de gens sont déjà assurés. Hein. Si vous êtes locataire, c'est obligatoire.
Via la multirisque habitation.
Voilà, via la multirisque habitation. Mais je dirais, en fait, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, pourquoi est-ce qu'on propose une augmentation de cette prime CatNat et en fait de continuer à l'augmenter régulièrement? C'est parce qu'on observe que le changement climatique a eu, et puis également, en fait, l'augmentation de la vulnérabilité, de notre exposition à ces risques climatiques est en train d'augmenter. Alors ça se voit, c'est évident sur les sécheresses, sur le retrait gonflement des argiles. Voilà, 2022, c'est une sécheresse qui est attribuée au changement climatique et c'est 3,5 milliards d'euros en fait. Ça se voit également, en fait, pas encore tout à fait, mais ça va bientôt venir, c'est sur les inondations. Le changement climatique, il favorise les inondations par ruissellement, c'est celles qui viennent des pluies en fait. C'est un peu plus mitigé en termes d'inondations par débordement. Et puis également, on a les submersions marines avec l'élévation du niveau de la mer.
Est-ce que c'est ça la vraie difficulté en fait, c'est de pouvoir attribuer au réchauffement climatique un phénomène qui peut être aussi un phénomène météo? Est-ce que c'est une difficulté, ça, ou pas?
C'est évidemment une difficulté. Il y a beaucoup de chercheurs qui travaillent sur ce sujet. Il y a eu énormément de progrès. Sur la sécheresse de 2022, par exemple, elle est attribuée au réchauffement climatique et on a une explosion des coûts du retrait gonflement des argiles. Donc, il y a une cohérence. Après, il y a aussi, quand même, par exemple, notamment sur les inondations, l'aménagement du territoire, c'est-à-dire où est-ce qu'on construit. Lorsqu'on construit en zone inondable, eh ben, effectivement, on a des pertes. C'est là qu'il y a un intérêt très fort d'avoir des lois, comme par exemple, qui permettent de faire de la prévention des risques, d'interdire de construire dans certaines zones et puis de faire de la zéro artificialisation nette. Ce sont vraiment nos protections. On ne pourra pas s'assurer si on n'a pas ces protections.
Ce que vous dites aussi, on va y venir aux protections, ce que vous parlez aussi des résidences secondaires, des résidences locatives qui sont plus pénalisées, j'allais dire. En gros, si vous restez dans ces zones à risque, là, pour le coup, les assureurs peuvent monter leurs primes jusqu'au plafond et chargent pour vous, puisque de toute façon, vous savez où vous êtes.
Ouais. Alors, dans notre rapport, effectivement, l'idée, c'est qu'on sait depuis très longtemps que l'assurance, lorsque vous êtes assuré, vous pouvez être tenter de ne pas vous adapter, parce que finalement vous êtes couvert pour vos pertes.
Ah oui.
Donc il y a un côté qui peut être déresponsabilisant. Alors il ne s'agit pas de responsabiliser des gens qui n'ont pas les moyens de faire de la protection ou de déménager. Il s'agit uniquement de responsabiliser des gens qui ont les moyens de le faire, et c'est notamment le cas des gens qui disposent de résidences secondaires, de biens de luxe, et puis en fait de biens locatifs. Donc là, pour eux, effectivement, on propose des mesures qui visent en fait à les inciter à prendre des mesures de protection.
Mais pour chacun, hein, vous parlez d'une obligation de travaux tous les 3 ans, sinon triplement de la franchise, effectivement. Et alors, en vous lisant, moi je suis même étonné de la simplicité. Vous parlez de sacs de sable, par exemple. Oui. Est-ce que parfois, c'est au fond aussi simple que ça, en fait ?
Parfois, oui, en fait. Et c'est là qu'il y a besoin aussi d'informations. Donc, en fait, dans notre rapport, on met en avant l'idée que, en fait, en réalité, pour quelqu'un qui est exposé à des risques, c'est très difficile d'accéder à l'information et qu'il y a peut-être besoin d'une association qui soit très proche des gens, qui fasse de la communication, de l'information, via également les maires, via également les services de l'État. Et donc, on propose des dispositions
Les questions d'éducation sont fondamentales. L'éducation au risque naturel, par exemple...
L'éducation de où nous sommes aussi, suis-je dans une zone à risque ?
Absolument.
Comment ? Qu'est-ce que ça veut dire pour mon habitation ?
Moi, je suis favorable à ce qu'il y ait une journée nationale de prévention organisée par les maires qui, dans leur commune, préviendraient leurs administrés des risques naturels qui pèsent sur la commune et donneraient les bons réflexes à avoir. Dans des catastrophes naturelles précédentes, on a eu des gens qui, par exemple à Cannes, Mandelieu, la Napoule, étaient descendus au sous-sol pour sauver la voiture et étaient morts noyés.
Oui, oui.
Donc, il faut avoir les bons réflexes.
On va reparler des sacs de sable, on va parler d'hydratation aussi des sols potentiellement. Je voudrais d'abord qu'on écoute ensemble une note vocale qu'on découvre ensemble, c'est celle de Vanessa.
J'appelle pour mes parents qui ont une maison à Metz, qui a subi en fait d'énormes fissures qui sont installées en quelques années, de plusieurs centimètres, qui sont vraiment impressionnantes au niveau de tous les murs. Et en fait, l'expert de l'assurance leur a demandé de couper tous les arbres du terrain qui, à cause de leurs racines, assécheraient trop le sol. Donc évidemment, ça a été un vrai crève-cœur. Et en fait, moi, je me demande si on ne marche pas sur la tête. À l'heure où on parle des températures en centre-ville qui s'élèvent, et bien maintenant, en fait, le terrain qui était jadis très vert se retrouve sans rien du tout, tout plat et tout moche.
Et la note vocale était signée Vanessa, qu'on remercie. Arnaud Schneweis, médiateur de l'assurance, vu que vous vouliez intervenir, vous avez levé le doigt, bravo. Allez-y.
Non, on a très souvent ce type de problématique, ce qu'évoque Vanessa. C'est-à-dire que, donc on n'a jamais eu autant, nous, à la médiation, on a 33 000 saisines sur les 12 derniers mois. Et les deux tiers de ces...
Que des fissures.
Non, pas que des fissures.
Enfin, beaucoup. Mais énormément,
c'est vrai. De plus en plus de dossiers liés à des événements climatiques. Et au sein des événements climatiques, le sujet de la sécheresse, qui est un péril, un événement climatique différent des autres. C'est-à-dire que dans les autres cas, c'est clair. Est-ce qu'il y a une tempête ? Est-ce que le vent a soufflé à plus de 100 km/h ? Voilà, on demande à Météo France un relevé. Ouais. Est-ce qu'il y a une coulée de boue ? Ça fait pas de question. Est-ce que le fleuve a débordé ? Il n'y a pas de question. Bon. Sur la sécheresse, il y a question. Pourquoi ? Parce que dans le régime d'indemnisation des catastrophes naturelles, il est dit qu'il y aura indemnisation seulement si on peut dire que la sécheresse, pour ce qui concerne la question de Vanessa, est la cause déterminante, c'est ça l'expression, la cause déterminante de ce qui est arrivé à l'habitation. Alors, un sinistre est déclaré, l'expert est envoyé, et l'expert, c'est le cas typique de Vanessa, il va dire, écoutez, est-ce que l'arrêté de catastrophe naturelle, qui pour cette commune a dit qu'il y avait eu sécheresse pendant 3 mois à l'été 2023, par exemple, donc une période très courte, est-ce que je peux dire que la cause déterminante des fissures de l'habitation, c'est cette période très courte de sécheresse telle que définie par l'arrêté de catastrophe naturelle ? Et souvent l'expert dit non, parce qu'il y a aussi un défaut de construction de la maison, parce qu'il y a des arbres autour, dont les racines ont sapé les fondations de la maison.
Et du coup, au final, est-ce que le dilemme de Vanessa, c'est soit on coupe les arbres, soit il faut, faire tomber la maison, parce que au fond, que ce soit dû au fond aux racines ou que ce soit dû à la sécheresse, à un moment, de toute façon, le bâti est abîmé. Allez-y, monsieur Le Gozanet.
Le problème, effectivement, du retrait gonflement des argiles, c'est qu'au moment de la construction de la maison, c'est finalement un surcoût qui est relativement modeste de se prémunir contre ces retraits gonflements des argiles. Il suffit d'avoir des fondations plus profondes, en fait.
Okay.
Mais une fois que la construction est faite, eh bien, ça devient très coûteux. Et alors, des solutions qui sont faites, en fait, ce qu'il faut, c'est éviter le contraste, en fait, entre sous la maison où ça reste humide et puis les fondations où ça devient sec plus rapidement. Et c'est là, en fait, que c'est très compliqué. Et alors, il y a des mesures horizontales qui sont proposées. Alors, c'est évidemment pour limiter ce contraste. Ça peut être des terrasses autour de la maison. Ça peut être effectivement de jouer sur la végétation. Et en fait, aujourd'hui, il y a des échos assez divers, en fait, sur l'efficacité de ces mesures.
Il y a Elisabeth qui nous nous dit, on est dans le même ordre d'idées, avant de retourner au standard, dans le rapport, il est suggéré d'arroser le sol en cas de sécheresse pour éviter les fissures dans la maison, mais comment peut-on imaginer cette solution-là, alors qu'on manque d'eau, qu'on n'a pas le droit d'arroser les jardins, de laver les voitures, etc., et que les agriculteurs sont contraints. Ils sont en train de nous dire, assez intelligemment, nos auditeurs, que réhydrater les sols pour prévenir les fissures est totalement contre-intuitif, en fait.
Oui, c'est contre-intuitif, mais effectivement, ça peut avoir un effet positif. Après, je dirais, évidemment, si vous êtes dans une zone où il y a un décret qui vous empêche de pomper de l'eau, ce n'est pas faisable.
Mais ça sauve la maison quand même. Donc,
effectivement. Ouais. Et je pense en fait que sur ce sujet des sécheresses, en réalité, c'est vraiment, si vous voulez, il ne faut pas qu'on soit dans la même situation dans 20 ou 30 ans. Et pour qu'on ne soit pas dans la même situation dans 20 ou 30 ans, il faut qu'on applique les lois qui aujourd'hui en fait imposent aux nouvelles constructions d'avoir des fondations profondes. Mmh. C'est notamment la fameuse loi Elan. Et je pense que c'est vraiment très important, sinon dans 30 ans, on rehaussera à nouveau les primes et on constatera qu'on est...
Il faut faire des diagnostics de sol pour toutes les nouvelles constructions.
Diagnostic de sol et diagnostic aussi des maisons. On parle d'assurabilité ce soir au téléphone sonne avec Gonéry Lecozané, qui est co-auteur du 6e rapport du GIEC et qui a participé à ce rapport sur la assurabilité des risques climatiques, avec Arnaud Schneeweiss aussi, qui est le médiateur des assurances, et avec Cécile, qui est avec nous. Bonsoir.
Bonsoir.
On vous écoute.
Oui, bonsoir. Alors, j'avais une question par rapport à, en fait, au rôle que peuvent jouer les assureurs, puisque vous parliez de responsabiliser les assurés tout à l'heure. Moi, je me dis qu'on est face à un gouvernement qui fait quand même peu de choses pour accélérer la transition écologique et qui répond principalement à des leviers financiers et qui est très préoccupé par l'argent. Donc, je me demandais dans quelle mesure les assureurs eux-mêmes, qui ont quand même un pouvoir financier assez important, pouvaient faire pression sur le gouvernement ou les gouvernements pour accélérer la transition écologique et les mesures contre le réchauffement climatique.
Merci beaucoup, Cécile Gonéry-Lecozané. Est-ce que ça peut venir par là, l'assurance qui tape à la porte du gouvernement en disant « Dites donc, si vous ne faites pas d'efforts, nous, on n'assurera pas les gens, ce que ça nous coûte trop cher ?»
Je pense que ça fait partie des choses qui motivent ces réflexions qu'il y a. En fait, nous ne sommes pas la seule mission sur la question de l'assurabilité dans le contexte climatique. Je pense que dans les recommandations qu'on fait, il y en a quand même qui visent, par exemple, à limiter les émissions de gaz à effet de serre. Mmh. Que peuvent faire les assureurs pour ça ? Mmh. Ils peuvent faire en sorte qu'il y ait des clauses vertes dans leur contrat. Donc, après sinistre, vous bénéficiez d'un bonus pour, par exemple, passer d'un véhicule thermique à un véhicule électrique ou pour l'isolation de votre logement. Ce type de choses. Je pense aussi que quand vous regardez, en fait...
Décarboner les réparations.
Exactement. Exactement. La deuxième chose, effectivement, et là c'est beaucoup plus large et c'est pas dans nos recommandations, mais c'est sûr que les entreprises ont l'oreille de l'État. Et les entreprises, en fait, ce qu'elles pourraient dire à l'État, c'est quelque chose qui est dans le rapport du GIEC, c'est que aujourd'hui, si vous avez une trajectoire vers la soutenabilité qui est hésitante, eh bien c'est un risque de transition, c'est un risque financier pour les entreprises. Si les entreprises viennent vers l'État et leur disent ceci, on aura peut-être une trajectoire plus claire vers la transition, vers la soutenabilité en réalité.
Bonsoir Philippe.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Oui, je vous appelle car j'écoute avec beaucoup d'intérêt là, le débat concernant effectivement le risque de défaut d'assurance, en tout cas des propriétaires ayant des maisons ou des appartements dans des zones par exemple inondables. Mm-hmm. Moi je suis un petit peu étonné parce que j'ai acheté il y a une petite dizaine d'années un appartement, je vis en région parisienne au Perreux-sur-Marne, dans une zone qui est donc proche de la Marne, et il y a déjà 9 ans, il y avait des diagnostics attachés au compromis de vente. Donc moi je suis pas pour déresponsabiliser l'acheteur d'un appartement, parce qu'en fait, finalement, quand on achète, c'est un peu comme quand on achète un bien d'équipement, un bien d'électroménager, en plus ça s'achète pas, un appartement ça s'achète pas tous les jours, il en tient de la responsabilité de l'acquéreur, de se renseigner sur le bien qu'il achète. Il y a toute une liasse de documents. Alors certes, ils sont parfois indigestes. Maintenant, il y a le diagnostic de performance énergétique. Il y a énormément de documents qui sont attachés à l'acte de vente. Mais pourquoi, quand on achète un appartement, on ne prend pas plus de précautions et se dire, bah oui, je suis en zone inondable, donc je prends le risque, effectivement, d'avoir à payer, à en mettre de ma poche pour un dégât des eaux. Et ce n'est pas à la solidarité nationale de compenser le manque d'information de l'acquéreur. En fait.
Vous avez, Philippe, Arnaud Schneeweiss, le médiateur de l'assurance, qui fait oui avec la tête. Mais avant de me tourner vers vous, Monsieur Schneeweiss, merci beaucoup pour votre question. Gonéry-Lecozané, c'est dans le rapport. Moi, si je l'ai lu correctement, je vois bien qu'on parle aux assureurs, on parle à l'État, on parle aux collectivités territoriales, on parle aux particuliers, on parle aux entreprises. Ça marche à 5, cette affaire. Si l'un sort de l'équation, ça marche plus.
Exactement. Donc on a essayé de faire des propositions équilibrées. Alors très clairement, il y a des efforts pour tout le monde, parce que malheureusement, on sait que les coûts augmentent et qu'ils vont continuer à augmenter. Mais effectivement, on a essayé de faire un rapport qui soit équilibré, en fait, et qui maintienne ce système de solidarité français, là, de réassurance.
Et je vous voyais faire oui avec la tête, Arnaud Schneeweis, mais il a raison, notre auditeur, il faut savoir où on est en train de construire et où on habite. Mais moi, j'ai l'impression que désormais, notamment de la part des collectivités locales, c'est des choses qui sont de plus en plus claires, et que depuis des effroyables accidents, je pense à la Vendée, la faute sur mer, etc. Enfin, je pense à ces épisodes-là. Désormais, quand on arrive en disant, moi, je voudrais construire ici, il y a quand même des gens pour vous répondre, c'est une très mauvaise idée. D'ailleurs, c'est interdit.
Je suis d'accord avec ce qu'a dit Philippe sur la responsabilisation des assurés. Tout le monde doit se sentir responsable. Et donc, quand on achète un bien, effectivement, le notaire doit vous aider aussi à comprendre le bien que vous achetez, où il est situé, et si effectivement vous êtes en zone inondable ou sur un couloir d'avalanche, etc. Et donc, il est tout à fait normal que si vous êtes dans des zones très exposées à des périls naturels, que l'assurance coûte un peu plus cher, et voir que vous ayez un peu de mal à trouver un assureur, parce que si vous êtes en zone inondable, voilà, il faut assumer. Il faut assumer. Bon, donc ça, c'est le premier point de ma réponse à Philippe. Je suis d'accord avec son propos sur la responsabilisation. Mais, bémol que j'ajoute, cependant, il y a quand même une solidarité qui est à trouver entre les différents territoires de la République. Et on peut pas dire que, parce qu'il y a le retrait du trait de côte, parce que une crue de la Seine risque d'inonder le port de Gennevilliers, parce que les Antilles sont particulièrement exposées au risque cyclonique, on va abandonner des territoires entiers parce qu'ils sont trop risqués. On peut pas dire que des milliers de
et là en l'occurrence dans ce que nous décrit Philippe, moi le Perreux-sur-Marne je connais bien, j'y ai passé toute mon enfance. Quand la Marne déborde, effectivement, ça monte extrêmement vite. Et là on parle de beaucoup d'habitation tout le long quand même.
Bien sûr. Je connais aussi le secteur. Donc voilà, je crois qu'il y a un équilibre à trouver entre la responsabilité individuelle des assurés, oui, j'approuve, mais c'est ce que nous dit le rapport qui vient juste d'être publié. Il faut quand même préserver ce système unique au monde, on l'a dit, de régime français des catastrophes naturelles, qui organise la solidarité entre les territoires.
Gonéry Le Cozanet, et puis on retourne au standard.
Et encore une fois, effectivement, on ne peut pas s'assurer contre tout. On peut s'assurer à condition que d'une part, on limite ce réchauffement climatique le plus bas possible, et je pense qu'il ne faut vraiment pas démissionner sur les 1,5 degrés, parce qu'au-delà, les risques augmentent de manière massive. Et d'autre part, si on s'adapte. Et s'adapter, ça veut dire jouer sur l'aménagement du territoire et ne pas construire dans des zones inondables, voire se retirer, en fait, faire du zéro artificialisation net, par exemple.
Pensez-vous qu'on pourrait avoir la même conversation avec un plus 4 degrés? Vous savez que les projections, on les fait à plus 4 degrés pour voir ce que ça peut donner. Est-ce que, sincèrement, cette conversation-là, on ne pourrait pas l'avoir à plus 4 degrés? Il faudrait l'avoir totalement différemment.
Non, mais de toute façon, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a des choses qui n'existeront plus à plus 4 degrés, en fait. Donc, des forêts, par exemple, il n'y aura plus d'assurance forêt parce que vous n'aurez plus les mêmes forêts, en fait.
Une note vocale, celle de Johan. Bonsoir, Johan. La note vocale de Johan.
Bonsoir, France Inter. Alors moi, j'avais une question sur le choix de reconnaissance ou non de catastrophe naturelle. Comment ça se passe? Et surtout, comment ça se passe pour déterminer les périodes? Parce qu'en fait, je travaille pour un journal local en Gironde sur un périmètre qui a été particulièrement touché par la sécheresse et par les fissures de maisons consécutives à cette sécheresse. Et en fait, les habitants et même certaines mairies étaient très démunis parce qu'ils avaient bien les garanties auprès de leur compagnie d'assurance sur la catastrophe naturelle, mais ce n'était pas reconnu sur la période. Moi, dans mon cas, c'était en juin, juillet, et par exemple, ça démarrait à partir d'octobre. Et donc, en fait, voilà, je voulais savoir comment ça se passait et comment ça se décidait tout ça. Voilà.
Merci à vous. Vraie bonne question. Qui veut répondre, Gonéry Le Cozanet?
Peut-être juste un mot. Il y a quand même un indicateur, en fait, d'humidité des sols de Météo France qui est utilisé comme critère pour cela. Alors après, effectivement.
Mais il y a une période, visiblement, ce que nous raconte Johan, c'est qu'il y a une période, et donc quand on est hors période, on est chocolat.
C'est ça, c'est quelque chose de très courant. Donc les arrêtés de catastrophes naturelles, ça remonte, les maires signalent le sujet, demandent la reconnaissance pour leur commune ou pour une partie de la commune de l'état de catastrophe naturelle. Le préfet transmet à une commission interministérielle, avec donc différents ministères associés, et la décision est prise ou pas de classer la commune pour telle période, pour tel jour, ça dépend du péril, tempête ou sécheresse, en catastrophe naturelle. C'est quelque chose de très fréquent qu'en fait, les fissures à l'habitation, ça a commencé par être des petites fissures, et puis au fil des années, elles se sont aggravées. Et effectivement, comme en général les arrêtés de catastrophe naturelle sont pris pour une période très courte, par exemple 3 mois, l'exemple que je donnais tout à l'heure, mais c'est vraiment typiquement ça. C'est, on dit que la commune est en état de catastrophe naturelle pour l'été 2023.
J'entends bien.
Et donc si l'expert dit, mais il y avait des fissures depuis des années en fait dans votre habitation. Ouais. Par conséquent, je ne peux pas dire que la cause déterminante de ce qui vous arrive, c'est l'été 2023, puisque depuis des années, il y avait déjà des fissures. Et c'est très frustrant.
Et c'est très frustrant, et on peut le comprendre. On a sur WhatsApp ce message pareil qui dit « Les fiantes canicules ont entraîné des sécheresses des sols. Suite à cela, de nombreuses fissures sont apparues dans les maisons, notamment en Île-de-France, nous dit-il, mais pas de classement en catastrophe naturelle. » Y compris parce que les cas sont trop nombreux, les pouvoirs publics ne jouent pas leur rôle d'assurance. Alors, et les assurances, elles sont bien contentes.
Il faut comprendre qu'il y a 10 millions de maisons sur les sols argileux. Donc le sujet est gigantesque. Mais effectivement, les règles actuelles d'indemnisation demandent que la sécheresse, telle que reconnue par un arrêté de catastrophe naturelle, soit la cause déterminante de ce qui arrive à la maison.
Avant de retourner au standard, Gonéry Lecozané, moi j'ai une question sur la manière dont le territoire sera découpé. Parce qu'on peut imaginer ce que c'est qu'une zone verte ou une zone rouge, mais enfin, il peut y avoir une zone rouge aux inondations autour du trait de côte, mais qui sera rouge en termes d'argile, par exemple. Donc est-ce que ça veut dire qu'il y aura des zones un peu des découleurs? Et surtout, est-ce que dans l'idée de votre rapport, on le revoit? Parce que la carte changera tout le temps désormais.
Bien sûr. En fait, l'idée, si vous voulez, c'est que déjà aujourd'hui, on a de l'information sur ces sujets-là. On a les plans de prévention des risques. Et donc, avec les plans de prévention des risques, on peut savoir si on est dans des zones très exposées, par exemple aux inondations, aux submersions marines, etc. En fait, l'idée que nous proposons, c'est d'avoir une cartographie nationale, en fait, de ces risques majeurs qui sont, en fait, le retrait gonflement des argiles, les inondations, les submersions marines, et puis, en fait, les séismes. Pour les séismes et pour les retraits gonflements des argiles, on a déjà des cartographies nationales. Le problème, c'est pour l'inondation où c'est très hétérogène. Mais ça peut se faire assez rapidement.
L'intérêt... Et ça peut se bouger rapidement aussi, surtout.
Alors, effectivement,
d'une année à l'autre.
Ce seront certainement des cartographies qui évolueront. Mais je dirais, qu'est-ce qu'on veut faire de cette cartographie? C'est identifier les comportements des assureurs. Est-ce qu'ils sont en train de s'évader? C'est mettre en place des soutiens et puis obliger à certaines mesures de prévention. C'est également en fait mettre en place cette mesure pour empêcher les stratégies d'évitement des assureurs. Donc même s'il y a des erreurs dans cette cartographie, on aura, les assureurs n'auront pas plus d'informations que l'État.
Parce qu'après, ce que je trouve fascinant, par exemple, si on avait fait la carte il y a un an, on n'aurait pas forcément mis toute cette zone du Pas-de-Calais qui a été inondée ces derniers 6 mois. On la met dans, un an plus tard, on la fait rentrer dans une zone rouge, en fait, si? On l'aurait mis quand même
Je pense que, si vous voulez, cette zone quand même basse du Pas-de-Calais, elle est quand même bien identifiée comme une zone qui est, d'une part, soumise à un risque à long terme d'élévation du niveau de la mer, et puis d'autre part, aux inondations par ruissellement, en fait. Si vous allez aux Pays-Bas, il ne s'agit pas d'abandonner ces zones-là, mais par contre, ils envisagent des mesures vraiment massives pour s'adapter dans ces régions-là. Ça va jusqu'à des pompes énormes qui évacuent les eaux en fait, des fleuves lorsque les marées ne sont plus assez basses pour les évacuer. En fait.
Je suis d'accord avec ce que vous avez dit, Fabienne, sur le fait que les zones concernées peuvent évoluer, c'est-à-dire qu'on n'avait pas l'habitude que dans le Pas-de-Calais il puisse y avoir bien sûr des événements aussi incroyables. Et puis,
Lyon n'a pas vu ça depuis 30 ans, par exemple.
Voilà, tout à fait, absolument. Et pour prendre l'exemple de la grêle, on avait jusqu'à présent des petits grêlons qui faisaient des dégâts limités, et maintenant il y a vraiment des sortes de balles de ping-pong.
Voilà, on avait des balles de ping-pong, on a des balles de tennis.
Voilà, qui tombent et qui trouent les toitures. Voilà. Donc il y a vraiment un changement de nature là, de ces périls climatiques.
Pascal est avec nous. Bonsoir Pascal.
Oui,
on vous écoute.
Alors moi la question c'était, moi j'habite à Paris, quartier Bastille, dans le 11e arrondissement, et mon assurance m'a envoyé un courrier en m'expliquant que j'allais prendre 7% de plus sur ce que je payais tous les mois par rapport à mon logement. Alors que je suis pas concerné par les traits de côte, etc., par plein de trucs comme ça, et qu'il fallait participer, etc., et puis voilà quoi.
Vous voulez pas participer, alors. Pascal, j'entends là, encore.
Non, moi je suis un petit retraité, avec une petite retraite, je payais 800 euros d'assurance logement par mois, et là je suis passé à 17 euros, hein, donc 18 euros, quoi, on va dire. Quoi.
Merci. Donc, voilà. Merci pour votre remarque, Pascal, mais c'est une vraie question, Arnaud Schneeweis, est-ce que, et en termes d'assurance, hein, est-ce que c'est à l'ensemble de la collectivité et où que nous habitions sur les territoires français d'éponger ce risque supplémentaire ou pas? Est-ce que c'est une vraie question
c'est
qui se pose
question.
Exactement dans
ces
termes-là?
C'est une excellente question, c'est tout le sujet de notre débat ce soir. Bon, alors sur les plus 7% de Pascal, je ne sais pas si tout est dû à cause du dérèglement climatique. Bon, d'abord, vous êtes libre, Pascal. comme on l'a dit tout à l'heure, voilà, vive la liberté, enfin, vive la concurrence. Si ça fait plus d'un an que vous êtes chez cet assureur, vous pouvez à tout moment le quitter. Et vous lui donnez le préavis et vous en trouvez un autre qui vous conviendra mieux. Je rappelle aussi qu'il ne faut pas seulement se concentrer sur le tarif. Il faut regarder les garanties qu'on a. Hein, vraiment, ça serait une mauvaise idée de dire je cherche l'assurance la moins chère. En général, les assurances les moins chères couvrent peu également. Donc, l'assurance, c'est vraiment... quelle garantie j'ai, pour quel tarif, il faut vraiment essayer de comparer les garanties, même si je sais que ça n'est pas toujours simple. Après, voilà, la question de la solidarité qui est posée, eh bien, moi, j'ai tendance à répondre oui, il faut une solidarité entre les différents territoires, et cette solidarité, elle est incarnée par nous, les individus. Mais c'est un vrai choix de société.
Je pense que la contrepartie, finalement, de l'effort que fait Pascal, en fait, eh ben, c'est que les gens qui sont exposés au risque climatique s'adaptent et fassent des mesures de prévention. Et que, notamment après les sinistres, lorsque, en fait, c'est le meilleur moment pour faire des travaux, eh ben, en fait, il y a des incitations très fortes pour faire mieux, en fait, reconstruire des habitations qui soient moins vulnérables aux aléas climatiques.
On a un auditeur sur WhatsApp qui nous dit que nous avons décidé avec mon épouse de revenir au pays. C'était en Martinique. Il était évidemment pour nous évident que nous prenions des risques attachés aux événements climatiques. Notre construction, donc, est adaptée à cet état permanent de risque au moment de leur retour. Est-ce que l'un des risques, Arnaud Schneveis, est-ce que ça peut arriver? On a entendu ces derniers temps quelques maires qui avaient peur de ça, de se retrouver non pas avec des zones, non pas avec des maisons spécifiquement, avec des municipalités qui deviennent des municipalités non assurables, en fait, sur une zone délimitée vraiment par la municipalité. Je vous vois faire oui avec la tête, ça m'inquiète un peu.
Non, mais vous savez que les collectivités locales, si c'est ça votre question, certaines ont du mal à trouver un assureur, puisqu'il y a très peu d'assureurs intéressés par l'assurance des collectivités locales. Et en tout cas, entre le dérèglement climatique d'une part et les émeutes qu'il y a eu d'autre part, les quelques assureurs impliqués ont été très déficitaires, en tout cas en 2023, sur les risques des collectivités locales. Et donc, je sais qu'il y a plusieurs missions, plusieurs projets du gouvernement qui sont en cours pour essayer de trouver des solutions à l'assurance des collectivités locales.
Et justement, et ce sera la dernière intervention, c'est celle de Bernard par WhatsApp qui nous dit ceci, une société d'assurance n'est pas une société philanthropique, son métier est de générer un maximum de bénéfices, et la question est donc la suivante, faut-il continuer à confier à des sociétés privées le soin de nous protéger d'un risque qui est un risque collectif ? Ça vous laisse un peu quoi, les amis ? Vous avez 4 heures.
Pas forcément, en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'on a déjà un système en fait, de réassurance publique. Et on a des mécanismes, en fait, qui sont relativement protecteurs, qu'on propose de maintenir.
Un régime public-privé, nous, enfin, on oscille là-dedans. Mais du coup, la question qu'on se pose, c'est est-ce que notre système est en danger, en fait ?
Il est en danger, clairement. Hein. Je pense que si on n'avait pas proposé de rehausse de la prime CatNat, en fait, à un moment, l'État devait intervenir pour refinancer la caisse centrale de réassurance. Le retrait gonflement des agiles est clairement le risque qui menaçait de faire ça très rapidement.
Je vous vois faire oui avec la tête, Arnaud Schneveis, effectivement. Ouais.
Oui, on a un régime qui est formidable, qui existe depuis 1982, comme vous l'avez dit, qui permet la solidarité entre les territoires, mais l'ampleur du choc des événements climatiques fait qu'il a été déséquilibré et qu'il fallait là le renflouer. Mais une fois qu'on a fait le renflouement, vraiment, on est sur des questions maintenant de développement de la prévention, de l'éducation au risque, de l'aménagement du territoire, et ce sont ces sujets structurels qu'il faut affronter maintenant.
Voilà,